Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Y a-t-il une vie après The Leftovers ? Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence protestante en compagnie d'un invité dont la présence m'honore, Paquôme Thielman. Entre 2014 et 2017, la chaîne américaine HBO a diffusé une série OVNI The Leftovers. On peut la voir en France sur OCS. Pour ses commentateurs, c'est une des séries les plus importantes depuis Twin Peaks. Son showrunner, comme on dit, était Damon Lindelof, connu pour avoir été l'artisan de la série Lost et aujourd'hui de la série Watchmen. Dans The Leftovers, 2% de la population mondiale disparaît subitement, laissant ceux qui restent, les Leftovers, dans un deuil impossible et surtout dans une butée du sens qui les empêche de reprendre le cours normal de leur vie. À partir de cet argument fantastique mystérieux, la série déploie toute la gamme des réponses qui s'offrent désormais à l'humanité. Se tourner vers le religieux, vers la psychologie, vers le paranormal, dépasser ce grand ravissement pour aller de l'avant ou au contraire se remémorer encore et encore l'événement pour ne pas oublier les disparus. Au-delà des solutions collectives, The Leftovers met en scène des êtres fragiles, troublés et traversés par des émotions puissantes, comme le spectateur d'ailleurs. L'un des personnages principaux, Kevin Garvey, est ainsi secoué par des forces chthoniennes qui le dépassent et le conduisent au bord de la folie. Il meurt et renaît, s'incarne en un autre individu, parle avec un fantôme et affronte des affects et des dilemmes impossibles. Nora, avec qui il a une belle histoire d'amour, pleure encore sa famille disparue et s'abîme dans une impossible quête de sens. La particularité de la série est qu'elle éteint en quelque sorte tous les signes ou toutes les pistes qu'elle semblait ouvrir, aussi bien pour ses personnages que pour les spectateurs, parce qu'elle veut nous dire que le grand départ n'est qu'un prétexte pour penser la difficulté de nos propres existences. Alors, y a-t-il une vie après The Leftovers ? Et pour répondre à cette délicate question, je reçois Paquôme Thielman. Bonjour.
Bonjour.
Paquôme Thielman, vous êtes à la fois écrivain, essayiste, cinéaste, chroniqueur dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture, et plus spécifiquement pour ceux qui vous lisent, vous êtes le maître des souterrains herméneutiques, un dévoreur d'œuvres alternatives et de culture pop, oh et un érudit des temps modernes.
C'est beaucoup trop.
À peine. Je vous reçois aujourd'hui pour un échange autour du livre que vous venez de coécrire avec l'universitaire, Sarah Atchuel, que je salue, qui est d'ailleurs autant spécialiste des séries que de Shakespeare. Sarah, je vous reçois pour un livre qui s'intitule « The Leftovers, le troisième côté du miroir ». Et qui vient d'être publié aux éditions Playlist Society, Paquôme. Alors, j'ai présenté The Leftovers comme une série fantastique. Je voudrais pas non plus emmener les spectateurs ou les auditeurs dans un mauvais endroit. On n'est pas devant une fiction fantastique de niche. On est face à un drame, cette série.
C'est très difficile de définir le genre auquel appartient The Leftovers. Déjà, Lost, on pourrait dire, était une série qui défiait le genre, en tout cas en les traversant. C'est-à-dire que ça s'est commencé comme une série d'aventures sur une île déserte, une série de survivalistes, mais qui doivent survivre. Et puis il y avait des éléments de fantastique,
des apparitions,
de fantômes, il y avait du mystère. C'était une série aussi qui avait des éléments de drame, voire de mélodrame, puisque tous les flashbacks étaient pas tous, mais enfin bon, la plupart de tonalités mélodramatiques. Et on pouvait dire les flashbacks eux-mêmes étaient une possibilité d'exploration de genres différents, parce qu'on avait des flashbacks qui avaient quand même une orientation un peu type film noir, tous ceux autour de Sawyer, même autour de Kate. Et il y avait des flashbacks qui avaient une orientation mélodramatique pure, comme ceux de Jean et Son, où c'était vraiment un couple qui se déchire, et d'autres avec une dimension un peu comique ou burlesque. Puis à mesure que la série avançait, on traversait encore d'autres genres. Il y avait évidemment le moment où il y avait le voyage dans le temps, donc on avait des éléments de science-fiction. On avait en tout cas un personnage qui venait jouer la tentation de la série d'aller vers la science-fiction, qui était Daniel Faraday, qui arrive en quatrième saison, et donc avec lui arrive un univers de type science-fiction, tandis que ça pouvait aussi aller dans le domaine de l'histoire secrète ou de l'histoire parallèle, l'archéologie fantastique, la fantasy, enfin bon.
Donc déjà une série, déjà avec Lost, une série transgenre.
transgenre.
Complètement transgenre.
Et au fond, The Leftovers, en tout cas Damon Lindelof, reprend ce principe-là.
Et,
de dire,
et Lost Leftovers serait à genre dans ces cas-là. Si on doit utiliser des termes qui sont plutôt utilisés pour le genre sexuel.
Ouais.
transgenre à genre. Oui, sans genre. C'est-à-dire que Leftovers, c'est vraiment très difficile de dire à quoi ça appartient. Il y a une dimension, la dimension fantastique, elle est initiale. Et, ceci dit, elle est rejouée régulièrement dans la série. Il y a des éléments de fantastique dans la série. Parce que, par exemple, il y a des personnages qui meurent et qui traversent d'autres mondes, qui ressuscitent. On peut dire ça appartient à la dimension fantastique ou mettons à la dimension métaphysique, mystique. Mais, pour autant, tout ça reste presque, comment dire, secondaire par rapport à ce qui s'y joue, puisque et ça, c'est peut-être aussi le talent d'écriture de Lindelof. Il doit le savoir. C'est d'autant plus fort que ça reste à l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on a à l'avant-plan un récit assez réaliste dans de type de relations humaines. Et en plus, selon les personnages qu'on va suivre, un style et un rythme quand même qui va varier. De façon moins frontale que dans Lost, mais tout autant. C'est-à-dire que, mettons, si on est dans un épisode où on va avoir le pasteur, Matt Jamieson, il y aura une dimension un peu burlesque, un peu comme dans Lost, les épisodes de Hurley, même si c'est pas sans mélodrame, le burlesque de Matt Jamieson.
Oui, c'est un burlesque assez triste. Dans la première saison, il doit trouver de l'argent pour sauver son église.
Exactement.
Et ça devient les Blues Brothers, quoi. Enfin.
Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'éléments d'humour, beaucoup plus que dans un épisode avec, mettons, seulement Nora ou machin. Et donc, du coup, on peut dire, on ne sait pas très bien de quel genre ça appartient. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est aussi l'aventure. C'est-à-dire que quand on commence une fiction de Lindelof, maintenant on peut dire une fiction de Lindelof, puisqu'on en a trois maintenant, dont une qui vient de démarrer, mais quoi, Lost, Leftovers ou Watchmen, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va voir de saison en saison, parce qu'il est bien changé d'une saison à l'autre drastiquement, d'épisode en épisode, voire de minute en minute. En ça, en effet, il est probablement moi je dirais, on dit que Twin Peaks a amené avec elle toute une nouvelle génération de créateurs, etc. Mais pour moi, c'est le principal successeur de Lynch, si on peut dire successeur, en tout cas, le showrunner Lindelof. Lynch n'est pas qu'un showrunner, c'est un réalisateur, mais en tout cas en tant que showrunner, qui apporte le même type d'exigence en termes d'imagination et d'inventivité. Il y a peu de fictions qui me stimulent autant que les fictions de Lindelof, comme ont pu me stimuler les fictions de Lynch, ou me stimulent toujours les fictions de Lynch.
Dans votre ouvrage, et c'est un élément très fort dans la série, c'est que vous rappelez à quel point The Leftovers, pas comme tellement, est une série émouvante, c'est-à-dire qu'on est confronté à des personnages qui vont assez mal, auxquels il arrive évidemment plein d'aventures compliquées.
Ouais.
Et vous avez une expression, c'est une série, dites-vous, qui a réinventé nos larmes. On pleure dans The Leftovers.
On pleure comme on pleurait pas vraiment avant. Et ça, c'est un peu un mystère. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Sarah comme moi, on avait un peu le même sentiment au départ. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passait, c'est que Lost me fait toujours beaucoup pleurer, mais beaucoup de gens n'ont pas du tout ce type d'émotion vis-à-vis de Lost. Par contre, j'ai rencontré énormément de gens, mais énormément, qui m'ont dit je pleure jamais quand je regarde des films ou des séries, mais avec The Leftovers, je sais pas pourquoi, ça me fait pleurer tout le temps. Et ça me fait vraiment pleurer. Et c'est des gens qui ne pleurent pas, qui n'ont pas l'habitude de pleurer, qui n'aiment pas pleurer, qui considèrent que c'est quand même un peu bizarre, voire déplacé de pleurer dans une fiction, et qui comprennent surtout pas pourquoi cette fiction-là les fait tant pleurer. Et ça, ça a été le premier enjeu de ma réflexion. Et je me suis dit, notre réflexion avec Sarah. Disons qu'on l'a fait comme on a fait ce livre ensemble, et en même temps, on pourrait dire chacun de notre côté.
C'est chapitré d'ailleurs.
Voit, oui. Donc voilà, disons. Pour ne pas engager Sarah dans une parole qu'elle ne voudrait pas forcément. Je vais parler à mon propre nom. Disons, quand j'ai commencé à réfléchir sur The Leftovers, ma première question, c'est qu'est-ce qu'il y a de si émouvant? Pourquoi est-ce que ça nous touche autant? Et je dis nous, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça touche pas que moi, ce truc-là? Et quand je me suis dit, pourquoi est-ce que ça touche pas que moi? Et je me suis dit, c'est que ça atteint, des hommes d'aujourd'hui dans ce qui fait leur drame contemporain. C'est-à-dire qu'ils se sentent directement, touchés par ce qu'ils racontaient. Alors, du coup,
parce que nous, on n'a pas connu la sudden departure, on n'a pas eu cette espèce de grand départ ou de ravissement ou de je sais pas quoi, on n'a pas eu les 2% qui nous ont disparu en pleine figure. Mais par contre, le monde, il a changé pareil. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé, c'est une série qui parle vraiment d'un monde qui est passé d'un... on va dire d'un monde qui pouvait être envisageable ou en tout cas ordonné dans même les futurs les plus pénibles qu'on pouvait y percevoir à quelque chose qui est de l'ordre de l'incommensurable ou
l'incompréhensible.
C'est-à-dire c'est vraiment en fait je crois que il y a plein de choses qui émeuvent et du reste bon dans le livre il y a beaucoup de passages où on redéfinit de quelle larme il s'agit. C'est-à-dire c'est vraiment c'est ça qui nous fait pleurer. Ça doit être répété 4 ou 5 fois sur des choses très très différentes en disant en fait c'était ça finalement le sujet. C'est ça le sujet des larmes. Alors le sujet des larmes, on pourrait dire dans un premier temps c'est vraiment parce que cet événement il vient là pour donner un espace où on puisse pleurer. C'est-à-dire qu'en fait on voudrait pleurer et on peut pas s'autoriser à pleurer. Et ça, il y a un épisode qui nous le raconte, c'est l'épisode, l'avant-dernier épisode de la première saison, un épisode qui s'appelle The Garveys at Their Best, qui est donc le 9e/10 de la première saison, en fait, qui raconte avant l'événement. On retourne en arrière de quelques jours, quoi. On reprend, deux jours avant. Et puis on raconte, comment ça se passe dans cette famille.
C'était déjà compliqué.
C'est-à-dire que c'est déjà insupportable. Autrement, mais c'est déjà insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement, il vient juste couronner une situation qui préexiste et qui est une situation problématique. Une situation qui a l'air d'être insoluble. Donc, dans un premier temps, on peut dire l'événement, il est là pour nous donner l'occasion de pleurer sur ce qu'on n'a pas pu pleurer avant. Mais ensuite, on peut dire aussi, en fait, l'événement, il a beau nous donner une excuse pour pouvoir se permettre de pleurer, il recrée un nouveau trouble qui, lui, cherche un nouvel espace. Et donc, en fait, il résout rien, puisqu'en fait, il redouble le problème. Et donc, on recommence à réétouffer, à chercher un espace pour pleurer. Et donc, il n'y a pas de fin aux larmes.
Il y a un élément important sur les larmes et sur la série en elle-même, c'est que on reste avec des gens qui sont dans une perte absolue. Ouais. On reste avec ceux qui restent. On est avec les leftovers. Ouais. Donc, on est avec des personnages qui sont, en quelque sorte, évidés de l'intérieur, qui ont vécu qui ont vu les autres partir.
Oui. Puis surtout, on peut se dire, on n'est pas avec les héros de la série. C'est ça qui est, c'est un sentiment que j'ai eu au bout d'un moment, mais surtout c'est à la deuxième saison. Quand on arrive à la deuxième saison de The Leftovers, je spoil un peu, mais quoi, dans les séries qui sont passées depuis un bon moment, on estime qu'on a le droit.
Bon, on est à jour.
On est voilà. Si vous n'avez pas vu The Leftovers, les enfants, vous arrêtez votre poste, vous regardez avant de continuer, parce que sinon on n'est pas là pour vous donner envie, on est là pour parler ensuite. Donc, dans la deuxième saison, on commence, et puis là, on a une nouvelle famille. On est, en fait, dans une autre ville, dans la ville de Jarden, et puis on suit une autre famille, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, comme on suit cette autre famille, on se dit, mais en fait, on va pas retrouver nos Garveys. Et ils arrivent, mais ils arrivent d'abord comme des seconds rôles dans cette deuxième saison.
Ouais, comme même des étrangers qui veulent rentrer à Jarden, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, évidemment, ils reprennent leur place, mais il y a le fantôme, Patty, qui dit, c'est marrant, hein, cette famille, hein. On se demande si c'est eux les héros ou si c'est vous. Et là, c'est ce qui a ajouté ce truc-là, c'est que je me dis, mais en fait, c'est parce que, s'il y a eu des héros, c'était les 2%. C'était eux, les héros. Ouais. Et maintenant qu'on n'a pas les 2%, on est avec les leftovers. Les leftovers, la série dit bien de quoi il s'agit. On est avec ceux qui restent. C'est-à-dire qu'on est avec un peu les morceaux. Leftovers, c'est comme les morceaux qu'on a laissés dans l'assiette. C'est les restes. Et donc, on est avec les restes d'un récit. Et donc, c'est ce qui fait la spécificité des personnages. C'est qu'en fait, ils devraient jamais être au premier rang. C'est, même Kevin Garvey, c'est un personnage qui n'a pas les qualifications de héros telles que pouvaient l'avoir même les anti-héros. Il est presque trop flou. Dans leur écriture même, ils ont quelque chose de comme ça. Ce qui les rend réalistes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de flou dans leur comportement. C'est pas un oui, un non, une ligne droite, un but. C'est vraiment
Ça bricole complètement. Ça bricole. Ils sont pas du tout bigger than life, ils sont lower than life.
Ils
souffrent.
Exactement, et c'est ça qui fait la souffrance. Et c'est aussi ça qui fait que le spectateur qui voit ça a cette émotion. Alors que c'est une émotion, elle est réaliste, dans le sens où on se sent vraiment comment dire, il nous tire pas vers un ailleurs, il nous montre, il nous dresse le miroir assez juste de là où on en est. Et il y a un côté, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on fait pas partie des lucky ones? Et comment on peut quand même essayer de penser notre vie sur un mode épique, parce que malgré tout ces séries ont une dimension épique, cette série a une dimension épique, c'est-à-dire ce récit a ses grands moments, ben quand même on va mourir, ressusciter, voyager, etc. Mais avec une qualification de départ qui est pas la qualification comme pourrait être celle de Lost du héros. Quand bien même, encore une fois, dans Lost, le héros était spécial. Hein, c'était, on dirait des anti-héros, mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est des héros qui sont pas des héros de type guerrier. Mais là, ils ont même pas cette qualification. Donc du coup, c'est l'humanité restante, c'est l'humanité résiduelle, c'est aussi un espèce de temps étrange. Où le grand événement a déjà eu lieu et il n'est même pas en attente d'une relève, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre grand événement derrière. Ouais, donc on est après la fin en fait.
C'est une humanité déjà, on est après la fin, c'est une humanité déjà perdue. On va justement écouter les toutes premières minutes de la série et je dis aux auditeurs de se concentrer notamment sur les pleurs du bébé puis sur la voix de sa mère.
I know the water was totally up to our knees. Ben's exercise shit that he never uses. The washer dryer. I'm actually at the laundromat right now. Can you? I don't know. Can you squeeze me in at 5 or something? Yeah. Hold on. Flippy thing. There's a button. A red button. Yeah. Honey. Shh. It's okay, baby. Shh. Yeah. It's a red button. You just, oh my God, just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm gonna be home and... Sam? Sam? Sam?
La valeur de l'homme, fréquence protestante, y a-t-il une vie après The Leftovers? Nous sommes en compagnie de Paco Mthielman. Alors, ceux qui ont vu ces plans-là, on se disait qu'on avait des frissons. Alors, chez Antonioni, on disparaît entre deux plans. Là, bébé Sam et plein d'autres gens, donc les 2%, Paco Mthielman, ils disparaissent dans le même plan quasiment à la caméra panote.
Oui. C'est pendant un panneau. C'est bouleversant. Pour moi, c'est une des plus beaux intros de série jamais. Souvent, les séries télévisées, elles se mettent à être bien au bout d'un moment. Elles peuvent être
le temps d'introduire les personnages.
Voilà, c'est dur de vraiment... Ça te prend à la gorge dès l'intro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, la disparition, il n'y a pas d'effet spécial. Ça, déjà, c'est un truc formidable. Pour qui a vu quand même le problème des effets spéciaux dans Lost, Lindelof, il a bien fait. Il a dit, on va arrêter avec les spéciaux. Les effets spéciaux, c'est même... Ça vieillit souvent avec difficulté, pas très bien et tout... Ça peut avoir un charme, mais enfin quoi, c'est pas le but là. Donc là, on disparaît sans effet spécial. C'est bien de parler d'Antonioni et l'Aventura, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans un truc, une disparition comme ça. Mais c'est surtout comment la montée est formidable. Alors, cette personnage de cette femme-là qu'on a dans cette intro, au début, elle commence, elle est en train de... Elle est au lavomatique. Et puis, elle explique à son bébé qui est en train de pleurer continuellement, là, Sam, elle dit, avant, maman, il suffisait qu'elle mette des pièces... Et là, maintenant, en fait, elle doit acheter une carte, qu'ensuite elle doit amener, qu'elle doit avoir un arbre d'abonnement. Et comment elle parle, en fait, de à quel point le monde moderne complique tout, quoi. En gros, c'est sur le côté, inutilement tarabiscoté des trucs. Pendant ce temps-là, elle attend qu'on lui retourne un coup de fil pour recherche de boulot ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc, c'est absolument infernal. Et il y a un malentendu sur le téléphone, donc elle explique, machin, vous deviez me rappeler ou je vous rappelle parce que vous me rappelez, je sais plus. Enfin, c'est un espèce de, c'est un imbroglio et qui est rythmé tout le long par les cris permanents de l'enfant, les pleurs permanents de l'enfant. On voit qu'on atteint une espèce de dose de saturation absolue. Et puis, la caméra, à bout d'un moment, reste concentrée sur elle qui est en train de parler. On n'entend plus les pleurs. Au bout d'un moment, elle se retourne. On se retourne avec elle. Enfin, la caméra bouge avec elle. Il a disparu. Et là, la musique arrive. La musique qui va nous faire pleurer à chaque fois. Qui est la musique de la disparition. Qui est la musique de... Je sais pas quoi, une espèce de musique de Fatoum. Et qui est d'une tristesse... que j'ai même pas besoin de commenter à quel point. Et d'une légèreté en même temps. Un truc très, très... très délicat. Et ce qui est beau, surtout, c'est comment, et ça, c'est le génie d'écriture de Lindelof, ce personnage va être réinvesti. C'est-à-dire qu'on va le revoir dans le même épisode, un peu plus tard. On va le revoir les 3 ans plus tard dans un bar, en fait. Donc, elle passe les soirées dans un bar. Et il y aura un échange court avec le héros, avec Kevin. Et on comprendra, enfin, évidemment, la vie de cette femme est partie à volo après ça. Mais surtout, on va le revoir dans la dernière saison, dans l'antépénultième épisode, qui est un épisode qui est normalement centré autour de Laurie, et en fait. L'ex-femme de Kevin Garvey. Et qui nous montre le moment où Laurie va quitter son job de psychanalyste pour rejoindre les Guilty Remnants. Et c'est après une consultation avec cette femme. Et c'est l'introduction de l'épisode. Alors là, mais c'est vraiment... Et en fait, si je commence à en parler, j'ai les larmes qui viennent, alors que c'est pas un truc qui m'est arrivé. Mais quoi, c'est un truc qui arrive, et puis ça... Elle raconte à quel point elle a eu du mal à avoir cet enfant. Et donc, elle décrit la difficulté qu'elle a eue, elle et son mari, à avoir un enfant, les fives et les machins, et tous les... Enfin, l'horreur, quoi. L'horreur de l'impossibilité, l'incapacité à pouvoir, sur des années, comme ça, essayer d'avoir un enfant... Elle finit par avoir cet enfant, Sam. Et il lui disparaît comme ça. Et Laurie, elle écoute toujours, psychanalyste, machin. Et puis l'autre, elle lui dit, vous savez quoi ? À l'extérieur de chez vous, il y a 2 personnes en blanc qui attendent. Et elle dit, si vous n'êtes pas capable de me donner un début de réponse, là, elles le feront à votre place. Et c'est le moment, en fait, où en fait, Laurie se rencontre que dans ce monde-là, il n'y a pas de... Enfin, on ne peut pas faire son deuil. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire que ce phénomène-là, il n'est pas... comme il est sans précédent. On ne peut pas dire qui a perdu un membre de sa famille, qui a perdu une personne qu'il aimait. C'est que l'humanité entière passe par là. Ça n'a rien d'exceptionnel. Des fois, c'est exceptionnel parce que si on perd un enfant en bas âge, etc., ça peut vraiment, on peut vraiment partir sur autre chose dans la vie. Ça peut être vraiment compliqué. On peut vraiment partir dans un truc terrible. Mais on n'est pas le premier. Et donc, du coup, peut-être que quelqu'un a déjà travaillé cette question-là et travaillé les modalités possibles qui permettent à un événement inacceptable de pouvoir, malgré tout, ne pas empêcher la vie de continuer. Mais là, face à ce phénomène-là, elle a rien. C'est très, très beau. Et Laurie, à ce moment-là, d'abord, elle hésite à se suicider. Et ensuite, finalement, elle rejoint les Guilty Remnants. C'est-à-dire qu'elle renonce à son travail, à son métier. Mm-hmm. parce qu'elle peut plus l'exercer. Et en fait, là, on a aussi une clé de ce que sont les guilty remnants.
Alors, il faut qu'on en dise un mot, parce que, effectivement, c'est une espèce de secte.
Oui.
Un groupe, en tout cas.
Oui,
ils sont vêtus de blanc, ils sont un peu mystérieux. Voilà. Et c'est une nouvelle religion du post-départ. Oui. Puisque précisément, comme vous le disiez, ce départ-là, il n'obéit pas à des lois habituelles. Donc, il faut tout réinventer.
Exactement.
Et il faut essayer de réinventer la communauté. C'est hyper difficile. Que font et que sont les guilty remnants?
Alors, ça, c'est la première. C'est une des premières grandes inventions de cette série. C'est, cette série, c'est de nous faire comprendre comment peut... enfin, c'est quasiment une sorte d'étude avec tout le... à la fois le respect et l'humour que ça représente de la création d'un phénomène religieux. Et donc, les guilty remnants sont présentés. Alors, bon, ils ont des caractéristiques qui sont très simples. Ils sont habillés en blanc. Ils fument continuellement toute la journée. Ils mangent aussi une espèce de nourriture blanche qui ressemble à une sorte de comment on appelle ça, là, de porridge. Ouais. C'est une sorte d'une porridge pas très ragoûtant. Quoi? Bon. Et puis, ils se taisent.
Ouais, ils sont mutiques.
Ils sont mutiques. Et donc, ils communiquent en écrivant des paroles sur un petit calepin, le moins de mots possible, pour se donner des informations. Et surtout, ils se tiennent droit, face... Enfin, comment dire, ils sortent dans la rue et ils regardent les personnes sans rien dire. Et donc, ils sont une espèce de mémoire vivante de l'événement. Ils se pensent comme ça. Et le phénomène, en fait, apparaît comme ça au début. Quand il apparaît comme ça au début, c'est très intéressant. Tout ça aussi, c'est des excellentes manières de raconter les choses. On les a comme ça au début de l'épisode. Et on a le personnage de Kevin Garvey, donc qui va être le mec qu'on va suivre plus ou moins pendant la série et qui est le shérif de la ville, le chef de la police, parlant avec le maire de la ville du fait qu'ils vont faire un événement autour de la disparition et qu'il va y avoir encore ces putains de guilty remnants qui vont débouler. Parce qu'ils se déboulent aussi quand il y a un événement, ils viennent
avec des panneaux
qui disent en gros mais ça sert à rien ce que vous faites, quoi. Qui sont là, qui démoralisent la communauté qui veut continuer son petit train-train de vie et leur disent juste bah, c'est pas possible. Ils ont une manière vraiment, c'est pour ça qu'ils ont un côté vraiment religion naissante. Il y a eu un événement, ils essayent de se tenir sur l'événement. C'est ce truc-là. Et donc ils sont dans une espèce de mémoire continue. Ils, comment dire, pour eux, le monde ne continue pas. Le monde s'arrête.
On peut pas faire semblant de reprendre le cours de sa vie.
Impossible. Et donc ils discutent de ça et Kevin dit putain, mais ces mecs, ils existaient même pas il y a un mois. On sait pas qui ils sont. Et la mère dit mais on sait qui ils étaient. Et elle appuie sur qui ils étaient, et on a la musique. Et on ne sait pas pourquoi, on est pris à la gorge d'un truc, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Narrativement, dans l'épisode, on comprendra à la fin de l'épisode, à la fin du premier épisode, que sa femme a rejoint les Guilty Remnants, donc il sait très bien qui elle était. Et donc, non seulement il sait qui elle était, mais enfin, il a peut-être une idée pour certains autres aussi, vu que la personne qui la supervise, sa femme, c'est une ancienne patiente de sa femme, donc qui était une nana qui avait vraiment d'énormes problèmes, Patty, qui va devenir un personnage très important dans The Leftovers, et qui devient donc, on va dire, la chef de section sur la ville des Guilty Remnants. Et donc, on sait bien tous qui ils étaient. Ce qu'il y a, c'est que le phénomène est spontané, c'est un phénomène spontané, dont on peut pas retracer une généalogie précise. Par contre, on voit, dans la série, on voit opérer une mutation. On n'en voit opérer qu'une. Hein. Si la série avait été beaucoup plus longue, peut-être qu'on aurait eu d'autres, une mutation où il y a un personnage qui veut les faire quitter leur non-violence. Et c'est Meg. Meg, elle veut, elle en a marre que, grosso modo, ils arrivent comme ça, comme des sortes
de silhouettes.
Oui, enfin, silhouettes, mais qui se prennent toute la merde de la communauté.
Ils sont écrasés à un moment, on les tape, on les.
Ouais. Il y en a une qui se fait carrément lapider au début d'un épisode. Une qui se fait lapider par des gens de la ville. On saura jamais qui, mais en fait, ça a aucune importance. C'est juste qu'il y a une guilty remnant qui se fait lapider. Et surtout, cause des guilty remnant et compagnie, il y a un moment, on voit que la juridiction est pas la même selon les endroits des États-Unis, puisque quand Kevin a un mec au téléphone qui, on va dire, représente la police d'État ou machin, dit ce que vous voulez qu'on vous débarrasse du problème. En gros, ça veut dire qu'il y a des coins des États-Unis, on les extermine tout simplement. Ouais. Et en gros, beaucoup plus simple. Et c'est ce qui va se passer, je spoil un peu, à Jardin, ouais, en début de troisième saison, ouais, tardivement, un drone va être lancé là où Meg aura réuni son groupe, un groupe qui aura quand même réussi à juste casser les frontières de la ville de Jardin et l'ouvrir et donc faire que cette espèce d'endroit qui était supposé être protégé du reste du monde l'est plus du tout. Mais les Guilty Remnants disparaissent comme ça. Leur idée reste toujours présente, mais on n'a pas de surdéveloppement. Mais par contre, on voit bien que l'idée de départ, c'était de montrer, en tout cas avec les Guilty Remnants, une réaction possible à un événement surnaturel. Cette réaction possible, c'est la création d'un culte religieux. Et donc, c'est aussi une manière de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un culte religieux, si ce n'est une tentative de donner, une tentative d'organiser une mémoire à un événement surnaturel.
C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, les Guilty Remnants se sont chargés de la remémoration,
ouais,
permanente et voire de la recréation de l'événement dans une société qui leur paraît oublieuse.
Oui, et une société qui voudrait vraiment passer à autre chose, qui veut célébrer le truc avec une petite statue et puis maintenant la vie continue. Et eux, c'est vraiment opposé à ça. Et on a en fait dans la première saison très clairement trois tendances différentes par rapport à un événement comme celui-là. Ce qui est intéressant en fait, et c'est ce qui fait la complexité de The Leftovers, c'est que The Leftovers ne choisit pas. Ça, c'est vraiment le truc complexe. À la différence de Lost où à la fin, on va dire toutes les voies ou les formes différentes convergent et de là naît une harmonie. C'est-à-dire c'est à l'image de la phrase de Teilhard de Chardin qui devient le titre de Flannery O'Connor, qui devient un livre que lit Jacob dans Lost. C'est tout ce qui monte converge. Donc c'est vraiment le truc classique quoi. Et donc c'est mais dans The Leftovers, ça marche pas comme ça. Donc là, on a d'abord une subdivision entre les Guilty Remnants, mémoire de l'événement continuel et incapacité en même temps d'avancer ou refus d'avancer. Et on a aussi un guérisseur, Holly Wayne.
Ouais, Holly Wayne, qui apparaît la première saison.
Uniquement la première saison, mais qui a un personnage très important la première saison et qui, lui, ôte le chagrin des individus qui ont été touchés par l'événement.
Ouais.
Il prend leur douleur. Alors, on comprend que c'est un homme qui a perdu son... Dans la deuxième saison, on apprend un peu plus sur lui. On comprend que c'est un homme qui a perdu son fils dans l'événement et qui était, en tout cas, parti sur un mode extrêmement sincère. Après... tant de pouvoir en un seul homme ne peut que le corrompre. Et donc, c'est, on va dire, un guérisseur un peu marron, un peu corrompu, un peu trouble, et qu'on va suivre pendant la première saison où, en fait, il avait une communauté dans laquelle il a un petit harem de femmes asiatiques à qui il fait des enfants, et que l'État décide de dézinguer, comme visiblement ils aiment bien finir avec les choses de façon très radicale dans ce monde. Et donc il est en fuite, et on suit un petit bout de sa fuite. On voit en tout cas son action sur plusieurs personnages, et le fait que ne serait-ce que provisoirement il enlève cette espèce de poids de douleur énorme, il leur permet d'affronter ça. Grosso modo, il transforme ça en deuil en fait. Ce qui fait,
il permet en tout cas,
il permet le deuil. Et à la fin de la première saison, il décide de réaliser un miracle parce qu'il est en train de mourir. Donc c'est un personnage ambigu, mais c'est pas... De toute façon, dans The Leftovers, les personnages sont ambigus, mais on peut pas dire il y a des salauds.
C'est oui, pas, d'ailleurs, vous dites dans l'ouvrage, pas comme tellement, c'est une série sans méchants.
Ouais.
Ça se joue pas du tout là-dessus.
Ah,
c'est pas du tout des héros qui affrontent des méchants.
Tout à fait.
On est vraiment sur un autre type de structure
complètement
narrative.
Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on serait vraiment bien en mal de dire qui dans The Leftovers est le sale type, quoi. Il n'y a pas le sale type. On est vraiment hors de ce type de réaction. Déjà, dans Lost, il y avait ça. Ça, on pourrait dire, ça fait partie des trucs de Lindelof. Je pense qu'il est... Dans Lost, on avait des personnages qui étaient des adversaires, mais même ces adversaires avaient leur moment de grâce. Parce que le personnage, vous vous souvenez, probablement les auditeurs, s'ils ont vu Lost, c'est de Ben. Bon, Ben, évidemment, il a fait des choses particulièrement répréhensible. Mais c'est difficile à la fin de Lost de ne pas aimer Ben. Et puis de toute façon, Ben à la fin, ça va devenir le second de Hurley. Donc c'est pas un méchant, c'est juste un mec qui parce qu'il avait des gros problèmes, a fait des grosses conneries. Et dans The Leftovers, comme c'est une série un peu plus grise, ça se joue moins sur des choses aussi spectaculaires, mais c'est des personnages, ils se démerdent avec ce qu'ils ont. Et bon, ils font avec. Et là, alors il y a une troisième
piste
ouais. qui est celle explorée par le pasteur Matt Jamieson, et qui lui est vraiment de que c'est un test tout ça, que Dieu nous teste.
Ouais, c'est une ordalie, c'est un.
Et que en fait, il faut passer outre, faut continuer la vie. C'est grosso modo, si on n'est pas capable de continuer la vie, on n'a pas passé le test. Donc, on a ces trois voies qui sont vraiment ça. On en parle beaucoup avec Sarah dans le livre, qui sont un peu les trois réactions à l'événement surnaturel. Le fait de rester, de le souvenir de cet événement, le remember, l'anamnèse, le fait de se libérer de l'événement. Le let go laisser machin, et le fait de continuer à vivre, vraiment la continuation, le move on. Ces trois phrases qui étaient dites à la fin de la série Lost, qui étaient les trois phrases que prononçait le père du héros Christian à Jack: vous avez créé ce lieu pour vous souvenir afin de let go et de move on.
On va écouter quelques instants la voix d'une belle personne dans la série, Nora Durst, qui est l'un donc des personnages principaux et qui écrit à Kevin Garvey, c'est à la fin de la première saison.
Dear Kevin, I need to say goodbye to someone I care about. Someone who's still here. So I'm saying it to you. You were good to me, Kevin. And sometimes when we were together, I remembered who I used to be before everything changed. But I was pretending as if I hadn't lost everything. I want to believe it can all go back to the way it was. I want to believe that I'm not surrounded by the abandoned ruin of a dead civilization. I want to believe it's still possible to get close to someone. But it's easier not to. It's easier because I'm a coward. And I couldn't take the pain. Not again. I know that's not fair, Kevin. You've lost so much, too. And you're strong. You're still here. But I can't be. Not anymore. I tried to get better, Kevin. I didn't want to feel this way, so I took a shortcut. But it led me right back home. And do you know what I found when I got there? I found them, Kevin, right where I left them. Right where they left me. It took me 3 years to accept the truth, but now I know there's no going back, no fixing it. I'm beyond repair. Maybe we're all beyond repair.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, y a-t-il une vie après The Leftovers ? Nous sommes en compagnie de Paco Mthielman. Très beau personnage, Nora Durst, qui incarne à la fois une force, une résilience, et qui là, dans cette lettre, dit « We are beyond repair », nous sommes au-delà de la réparation. Il faut acter, quelque chose.
Extraordinaire. Très beau personnage, et un mot peut-être sur cette actrice dingue qu'ils ont trouvée, Carrie Coon, magnifique, très difficile de pas être immédiatement attaché à elle. Et il y avait ce phénomène mystérieux qu'il faudra un jour que quelque chose l'explique, que lors de la troisième saison de The Leftovers, en même temps, elle était aussi un des personnages principaux de la troisième saison de Fargo. Et son personnage avait des caractéristiques communes, à savoir que, par exemple, il y avait les, elle avait des problèmes avec tous les trucs automatiques, les trucs électriques réagissaient mal, quoi, les, genre les portes qui s'ouvrent pas ou les cartes qui se mettent à merder, etc. C'est comme si elle, c'est comme si son personnage avait deux vies à la fois à ce moment-là. Qu'elle, que,
dans deux séries.
Ouais, dans deux séries. Dans Fargo, en fait, c'était l'équivalent du Flash Sideways comme on a dans Lost.
Finalement, Fargo comme Flash Sideways.
Fargo, la saison 3 était le Flash Sideways de The Leftovers saison 3 et ça, c'était très très étrange. Et vraiment, ça a amené à un truc. Wow. Si on les regardait les deux dans la même semaine, on savait plus très bien ce qu'on regardait.
C'était troublant. C'était donc, très là, troublant. Là, c'est un personnage et qui incarne une forme peut-être de raison. Enfin, elle est difficile à qualifier, mais
C'est très difficile parce que c'est un personnage dont on est attaché, mais qui en fait est un personnage qui a est à la fois chez les autres et dans une demande de vérité, et quand même assez incapable de le produire pour elle-même. Donc en fait, c'est-à-dire que bon, on n'est pas supposé faire des, on n'est pas supposé dans The Leftovers, c'était comme la fameuse phrase de qui était dans le journal de Kurt Cobain, tu n'attendras, qui est comme un commandement, tu n'attendras pas de ta rockstar qu'elle te guide. Alors dans The Leftovers, on pourrait dire tu n'attendras pas des personnages d'une série télévisée qu'ils te guident. Donc ni Nora ni Kevin n'ont les solutions, quoi. Ni même Matt. Et le truc c'est que bon, Nora, son personnage au départ, c'est une mère de famille et en fait qui essaye tant bien que mal d'éduquer ses enfants. Elle a un mari qui la trompe avec la prof de ses enfants et elle essaye de se choper un job d'assistante à la mère de Mapleton. Elle perd son mari et ses fils. Et donc elle est dans une espèce de trauma total par rapport à ça. Elle devient quasiment le symbole de cette de dans la ville. En tout cas, elle est le symbole.
Statistiquement, elle perd 3 personnes dans le grand départ.
Voilà, c'est number one, quoi. À tel point qu'on l'appelle, elle s'appelle Nora Durst et que dans la presse on l'appelle Nora Cursed. Donc c'est Nora la maudite et c'est la sœur donc du prêtre Matt Jameson. Et Nora, en fait, va dans un premier temps essayer de réussir à vivre au-delà de ce truc-là. Donc, on a toutes ces belles promesses qu'elle se dit dans cette lettre aussi, etc. C'est un truc très très troublant parce qu'elle fait toute cette lettre. Grosso modo, elle accepte de partir et de se faire une autre vie. Et puis d'un coup, au moment où elle dépose cette lettre-là, il y a l'enfant de Holly Wayne qui est déposé devant la porte. Et donc, elle a de nouveau un enfant auquel s'occuper. Dans la seconde saison, elle va se retrouver à faire une sorte de couple avec Kevin dans la ville de Jardin. Et Kevin garde sa fille et ils ont cette espèce de bébé. Et elle va reperdre ce bébé à nouveau puisque la mère, à un moment, va vouloir le reprendre. Et alors là, Nora, elle a plus rien. Ça, c'est Nora saison 3. C'est Nora, elle a plus rien. Et donc c'est un truc, c'est qu'est-ce que c'est aussi de se retrouver, de comment dire, à chaque fois on essaye de construire une vie et la vie, c'est comme à chaque château de cartes, on donne un petit coup dessus et puis tout s'effondre, puis on recommence. Et donc on a tout le, ouais, on pourrait dire, si on pourrait dire qu'on peut voir la série aussi avec Nora comme personnage principal. De toute façon c'est ou Kevin ou Nora, mais c'est intéressant de voir, la saison 3 commence avec un épisode qui s'appelle Le Livre de Kevin, se termine avec un épisode qui s'appelle Le Livre de Nora, et on voit les différentes formes que prend même le destin de Nora au sein de la série. Et en tout cas, ce qui peut caractériser le rapport de Nora à cet événement-là, c'est qu'elle essaye d'y faire face de plein de façons différentes. On la voit tester beaucoup de manières d'y faire face. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que tout le long, ce qu'elle démontre, c'est une forme très aiguë de courage. Elle s'effondre pas, elle affronte le machin chaque fois de nouveau et encore et encore et encore. Par contre, il y a un truc qui est de toute façon qui est lié à c'est complexe, c'est-à-dire que en gros, ce qu'on lui reproche à juste titre, c'est qu'elle se définit par le trauma qu'elle reçoit. Et donc, ce que la série déconstruit, c'est est-ce qu'il est nécessaire pour un humain de se définir à partir de ce qui le traumatise, ou est-ce qu'il peut faire autre chose ? C'est ça un peu la question qui est posée sur le personnage de Nora. C'est est-ce qu'elle est capable de se définir autrement que parce qu'il la constitue presque accidentellement, on pourrait dire, qui est les horreurs qui lui sont arrivées. Est-ce qu'il y a une autre Nora que ça ?
Je renvoie à tous les autres développements dont on n'a pas pu parler dans votre ouvrage avec Sarah Atuel, Pas comme Tiellement, hein, série de fin du monde, série désenchantée, série qui résiste à l'herméneutique. Il y a plein d'éléments. C'est une série vraiment très riche. Alors, The Leftovers, il faut qu'on rende l'antenne un mot de conclusion.
Ouais, il faut un mot de conclusion. J'ai pas assez parlé du travail de Sarah Atuel sur le livre. Là, j'ai parlé tout seul de la série. Le livre est une sorte de dialogue d'une certaine façon parce que Sarah, comme moi, qui ont travaillé énormément sur d'autres séries, qui elle permettait une exégèse d'une certaine façon, qui se rendait disponible à une exégèse, on avait cette même difficulté vis-à-vis des Leftovers, et donc on a fait un livre ensemble parce qu'on a affronté ensemble une série qui échappait.
Il fallait y aller à deux. Merci beaucoup, Pas comme Tiellement. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. On se retrouve très bientôt. Je rappelle le titre du livre, The Leftovers, le troisième côté du miroir, chez Playlist. L'émission sera en podcast. À très bientôt.